France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Marc Floriot, bonsoir. À Pierre Dumayet, qu'on ne présente plus, s'était associé en 1949 Michel Robida pour rendre un hommage à James Joyce. Michel Robida avait reçu, 3 ans auparavant, le prix Femina pour Le temps de la longue patience aux éditions René Juillard. Ça avait été une vraie surprise en août 1925 de voir révéler Ulysse par Louis Gillet dans la revue des Deux Mondes, la célèbre revue culturelle de l'entre-deux-guerres. Il faut citer également, après The Little Review, Eugène et Maria Jolas et la revue américaine Transition, publiée à Paris entre 1927 et 1938, porteuse du Work in Progress de Joyce, et avec lui d'une révolution, non seulement de la lettre et de l'écriture, mais aussi du langage même. Une occupation pour les critiques et professeurs, comme disait Joyce, pour les 300 ans à venir.
Hommage à James Joyce.
Une émission de Pierre Dumayet et Michel Robida.
S'il y avait à Dublin une statue élevée à James Joyce, on pourrait y lire
« James Joyce, homme de lettres, né le 2 février 1882 à Dublin, mort le 13 janvier 1941 à Zurich. Auteur de Jean de Dublin, Dédalus, Ulysse et de Finnegan's Wake. »
Il n'y a pas de statue de James Joyce à Dublin, mais il y a à Paris, dans une librairie du Faubourg Saint-Germain, La Une, la première exposition qui lui soit consacrée depuis sa mort. À cette exposition figure un agenda sur lequel nous trouvons à la date du 13 janvier 1941, jour de la mort de Joyce, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de son appartement 34 rue des Vignes à Paris.
Et le propriétaire du 34 rue des Vignes, apprenant la mort de ce locataire qui n'avait pas payé ses derniers termes, il était en Suisse, la France était occupée, ce propriétaire donc décidait de mettre sous scellé l'appartement de Joyce.
C'était mettre sous scellé des manuscrits, des cahiers, des livres, des tableaux, tout ce qui compose aujourd'hui cette exposition. Mais Joyce avait des amis. L'un d'eux, Paul Léon, mort depuis en déportation, réussit à sauver en partie des objets personnels de Joyce au mépris des scellés. Madame Paul Léon va vous dire comment.
Mon mari a pu, grâce à son dévouement et à son courage, en pleine occupation, il a pu aller à l'appartement de M. Joyce où il a retiré une très grande partie de sa bibliothèque, de ses papiers personnels et de tout ce qu'il pensait pouvait être de valeur à la famille Joyce. Il a porté tout ceci au notaire de la famille qui l'a précieusement et généreusement gardé jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au moment où Mme Joyce et Mme Jolas et moi avons pu vérifier ce qu'il y avait. Or, nous avons trouvé une très grande quantité de livres, d'éditions de toutes sortes, d'Ulysse, de Finnegan's Wake et de papiers de très grande importance et de grande valeur, des choses dont très peu de monde était au courant.
Malheureusement, Paul Léon ne réussit pas à tout sauver. Le reste fut dispersé à la salle Drouot. Il le racheta.
C'est très exact. Au mois de mars, si je ne me trompe pas, en mars 41, le propriétaire avait tout saisi et il a pris le restant des choses. De l'appartement de Joyce. Avait saisi l'appartement de Joyce. Il n'en avait pas le droit. Mais Joyce était en zone libre. Il n'a pas pu payer son loyer. Et comme il y avait un arriéré de plus d'un terme, le propriétaire ne voulait plus s'entendre avec nous, ni rien entendre en général. Il était probablement collaborateur. Et il a tout vendu par la salle de Roux. Et alors, mon frère, qui était en zone libre et qui était à ce moment-là le seul d'entre nous Et dans notre groupe qui pouvait disposer d'une somme d'argent, nous a envoyé une somme d'argent et nous a dit « faites pour le mieux ». Et alors mon mari et moi, nous sommes allés à cette vente à la salle de Rouen et mon mari a pu racheter presque tout ce qu'il n'a pas pu emporter de l'appartement et qu'il savait être de valeur. Et de cette façon, je dois dire qu'une très grande quantité de toutes les œuvres exposées sont en ce moment ceux qu'il avait sauvés par son dévouement.
C'est Madame Eugène Jolas, femme d'un autre ami de Joyce et collaboratrice elle-même de Joyce, qui eut l'initiative de cette exposition. Bernard Gerbrand prêta sa librairie.
La plupart des objets exposés sont de petite taille. Ce sont des lettres, des épreuves, des livres. Mais ils sont dominés par un panneau qui, dès l'entrée, attire le regard, le surprend. De grands portraits à l'huile, des portraits de famille s'échelonnant du milieu à la fin du XIXe siècle couvrent ce panneau. Ils sont noircis, passés, obscurcis, semble-t-il, de fumée. Mais ce déséquilibre apparent a de l'importance, ces portraits sont essentiels. Ils ont accompagné Joyce durant toute sa vie. Celui de son père, John Stanislaus, le plus hardi des vers galants de sa ville, tel Simon Dédalus, domina toujours les nombreux logis parisiens de James Joyce. À chaque déménagement, et ils furent nombreux, les enfants étaient chargés de les transporter. Le 31 janvier 1925, une lettre de Dublin rappelait à James Joyce, alors à Paris, « J'espère que tu prends bien soin des portraits de famille. » Car, à côté du portrait du père, il y a celui du grand-père, qui chassait le lièvre au lévrier tel un seigneur. Et juste en dessous, son gilet de chasse, celui qu'il portait au grand jour, héritage légué aux aînés de la famille. Joyce le revêtait à Noël, aux anniversaires et aux jours de fête. La tradition de la famille est si importante pour Joyce qu'il compléta sa collection en 1926 en faisant exécuter des portraits posthumes d'après des photographies. Un de ceux-ci figure à l'exposition, celui de sa mère. Ajoutons pour cette période de l'enfance qu'une photographie de sa maison natale illustre une phrase de Stephen le Héros, « Une de ces maisons en briques brunes, incarnation parfaite, semble-t-il, de la paralysie de l'Irlande. »
Lorsqu'en 1920, James Joyce quitta Trieste sur le conseil d'Ezra Pound, il s'installa à Paris. Paris m'amuse beaucoup, mais je comprends pourquoi il n'y a pas de poésie dans la littérature française. Joyce écrivait cela en 1902. La lettre figure à l'exposition de la Une. Mais en 1920, l'auteur d'Ulysse écrivait « L'air ici est très imprégné de l'Odyssée ». Anatole France écrit « Le Cyclope », le musicien Gabriel Fauré un opéra « Pénélope », Giraudoux a écrit « Elpénor », Guillaume Apollinaire « Les mamelles de Tirésias ». Pendant ce temps-là, une petite revue américaine, « The Little Review », publiait Ulysse, mais elle venait précisément d'être interdite grâce au concours du comité de décence Sumner. La publication d'Ulysse donc était interrompue et c'est alors que James Joyce rencontra chez André Speer Sylvia Beach qui lui proposa de faire à Paris une édition anglaise de Ulysses.
J'habitais Neuilly en 1920 et j'étais fort lié avec Madame Ludmila Savitsky qui avait été l'hôte de Joyce à un moment donné où Joyce était en France et avait besoin de trouver des amis qui lui logent, qui lui donnent des moyens d'abriter son œuvre et sa personne. Et Ludmila Savitsky est venue un jour à la maison goûter avec Joyce, Madame Joyce, et est-ce par hasard, ou est-ce que j'avais volontairement provoqué cette réunion? Sylvia Beach et Adrienne Monnier sont trouvés, c'est moi. Voilà tout le rôle que j'ai joué dans ces circonstances qui ont eu des conséquences, je crois, très grandes, puisque c'est par Ludmila Savitsky que Joyce a été introduit en France.
Propos d'André Speer que confirme Sylvia Beach.
Eh bien, j'ai rencontré Joyce en 1920 chez André Speer. Et c'était Ezra Pound qui l'y avait amené. Et Adrienne Monnier m'avait amené là. Alors nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Alors il s'est intéressé beaucoup à ma petite librairie qui s'appelait Shakespeare and Company. Et il est venu tout de suite me voir. Alors il m'a raconté qu'il était très ennuyé parce qu'en Amérique, on était en train de supprimer son Ulysse. Et ça paraissait dans une Little Review et on avait supprimé 4 fois et finalement on avait traîné devant le tribunal les éditrices. Alors j'ai entrepris de faire paraître Ulysse en France, mais naturellement en anglais. Alors ça a fait une grande sensation et j'ai tiré à 1000 exemplaires et ça a été tout souscrit avant, mais Joyce avait dit « Oh, personne n'achètera cet ennuyeux livre ».
Est-ce qu'il y a des Anglais qui sont venus en France pour acheter le livre d'Ulysse ou...
Mais naturellement, comme c'était défendu, alors tous ils amenaient un exemplaire d'Ulysse dans leur bagage, et clandestinement, naturellement.
Une édition anglaise d'Ulysse, c'était bien, mais bientôt, Adrienne Monnier pensa qu'une traduction d'Ulysse en français, ce serait très bien aussi. Adrienne Monnier.
Eh bien voilà, en somme, c'est moi qui ai eu l'idée de donner la traduction à Auguste Morel. J'avais lu des traductions de lui, il avait fait toute une anthologie de la poésie anglaise. Il en cherchait un éditeur, je ne crois d'ailleurs pas qu'il ait trouvé un éditeur encore maintenant. Il voulait publier textes et traductions en regard. Et j'avais été frappée parce que pour les poètes anglais anciens, il avait traduit en vieux français d'une manière qui me semblait magnifique. Et je me suis dit, ce doit être l'homme qui fera Ulysse. Et en effet, il a accepté, mais il a passé 5 ans dessus, et non sans crainte, quand il s'est engagé avec moi, il a dit, oui, mais vous savez, je ne sais pas si je serai capable, en tout cas, j'aimerais que Larbeau pût revoir la chose avant publication. Ce qui a été fait, il y a eu non seulement la révision de Larbeau, mais celle de Stuart Gilbert qui a été extrêmement importante et des plus précieuses quant à l'exactitude du texte. Et naturellement, vis-à-vis de Morel, en fait, ça a été une chose qui lui a été un peu pénible parce qu'il s'était beaucoup attaché à cette traduction. Il lui est même arrivé de dire ceci, ça m'est tout à fait égal qu'il y ait des contresens, j'aimerais mieux, je la signe, j'en prends la responsabilité, j'aimerais mieux que cela parût ainsi. Ma faute, Joyce n'a pas été de cet avis, et au contraire, il a donné le plus grand prix à la révision de Stuart Gilbert et à celle de Larbeau. Et voilà, de sorte qu'après, évidemment, à la fin, c'était fini, nous étions tous un petit peu fatigués, exténués, et même un petit peu fâchés, mais enfin, tout va très bien.
Quant au portrait de James Joyce, nous avons demandé à plusieurs de ses amis de vous le composer. Et d'abord, à Marcel Brion.
La première fois que vous regardiez Joyce, vous étiez étonné de sa ressemblance avec les peintures étrusques dans les tombeaux de Tarquinia, par exemple, ou de Cerveteri. Joyce était un étrusque. Il avait exactement ce profil délicat, légèrement concave, avec ses angles très accusés du nez, du menton, du regard. Ce regard qui est mort, évidemment, dans les personnages peints des tombes étrusques, mais que l'on sent tellement vivant et tellement actif tout de même en eux. Eh bien, chez Joyce, il y avait ce côté extérieur de l'étrusque, et en même temps, il y avait ce sentiment de jouissance de la vie. Parce qu'enfin, Joyce était un homme, Joyce, devant une bouteille de muscadet de Nantes ou de fondant de Sillon, devenait l'homme qui apprécie largement toutes les bonnes choses de la vie. Et puis, il y avait chez Joyce aussi le sens funèbre, qui est caractéristique des étrusques, ce mélange justement de joie de vivre et d'une perception, d'une conscience très profonde et très grave de la vie d'outre-tombe.
À Sylvia Beach, c'est un autre aspect de Joyce que nous avons demandé.
Vous avez été très lié avec Joyce. Vous l'avez revu très souvent.
Naturellement, il était tout le temps rue de l'Odéon après cela, et il venait une ou deux fois par jour régulièrement, et je m'occupais de toutes ses affaires et de sa famille et tout. En un moment, j'étais tout à fait, parce qu'il ne voyait pas bien, et il avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui, et c'était vraiment très intéressant de s'occuper de lui.
Vous n'avez pas de souvenirs plus précis sur Joyce?
Eh bien, non, je ne crois pas.
Quelque chose dans le genre de ce qu'on appelle une anecdote, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire?
Eh bien, il avait très peur des chiens, parce qu'il m'a dit, vous voyez cette petite cicatrice que j'ai sur le menton? Et il avait une petite barbiche. Il a dit, j'ai cette barbiche pour cacher ma cicatrice, et c'est un chien qui m'a mordu quand j'avais 5 ans. Alors j'ai tellement peur des chiens que c'est terrible. Alors une fois, il a vu mon petit chien blanc, et il a tremblé, il a dit, is he fierce? Est-ce qu'il est féroce?
De quoi avait-il peur encore?
Il avait terriblement peur de tonnerre, des orages. Et quand il y avait un orage, il allait dans l'entrée chez lui et il faisait des pas dans l'entrée pendant tout le temps que durait l'orage. Il avait une peur terrible et tremblait. Il avait des superstitions et des termes, surtout de l'orage.
Les superstitions? Ça m'intéresserait bien de savoir.
Il était superstitieux. Oui.
Par exemple.
Et il s'occupait beaucoup d'un ami qui chantait à l'opéra, Sullivan. Mmh. Et il a découvert qu'il y avait un Irlandais qui chantait, un ténor, et qui pouvait prendre les notes les plus hautes, et dans Guillaume Tell. Et il a dit que jusque-là, personne n'avait pu prendre ses notes, sauf John O'Sullivan. Alors tous les soirs, il amenait tous ses amis entendre Guillaume Tell à l'opéra, même s'il n'aimait pas beaucoup cet opéra, et même s'il n'aimait pas la musique. Et il remplissait la salle de ses amis qui devaient tous applaudir Sullivan.
Je crois qu'il aimait beaucoup le théâtre aussi.
Et il aimait énormément le théâtre, oui. Tous les théâtres de Paris ont voulu donner sa pièce Exil. Et après, c'est toujours, ça a échoué, on ne sait pas pourquoi.
S'il fallait insister sur les superstitions de James Joyce, nous lirions la description du numéro 66 du catalogue de l'exposition de la Une. Numéro 66, le chapelet des amoureux. Composé de 5 perles en os de forme carrée, jointes par une chaîne à grands maillons étirés et fins en métal rouge. Sur un côté de la petite plaque de forme rectangulaire et également en os qui est insérée dans cette chaîne, on lit en lettres gothiques assez gauchement gravées « Love is unhappy » et sur l'autre « When love is away », dernière ligne du 9e poème de musique de chambre. Dans sa stèle pour James Joyce, Louis Gillet rappelle que Joyce était attaché aux rites, aux dates, aux anniversaires, à un calendrier secret auquel il attribuait une importance superstitieuse. Ici, nous trouvons un exemple de cet attachement. Les 5 perles, une pour chaque année, sont les bornes qui marque le chemin parcouru avec la femme qu'il aime, et la citation de son poème doit rappeler leur amour à celle-ci pendant son absence. En effet, Joyce a fait faire ce collier pour sa femme au moment de son voyage à Dublin, accompagné de son jeune fils en 1909. Et s'il fallait donner un autre exemple plus voyant, celui-là, de cette superstition, nous donnerions celui-là que Marcel Brion nous rapporte.
La première fois que j'ai rencontré Joyce, que je suis allé chez lui, je venais de chez le dentiste. Et je parlais avec difficulté, on venait de m'arracher une dent, enfin ça avait été très désagréable. Et quand je raconte ça à Joyce, Joyce prend l'air très effrayé et me dit « Comment ? Vous êtes allé chez le dentiste aujourd'hui ?» Je lui dis « Mais oui, mais pourquoi pas ?» Il me dit « Mais c'est un vendredi et un vendredi 13. »
Mais vous me disiez tout à l'heure que vous aviez rencontré Joyce. Est-ce à Paris, est-ce ailleurs ? Parce que
c'est
vous m'avez dit que vous viviez dans le monde.
Oui, oui, moi je n'ai connu Joyce qu'à Paris. Je l'ai
parce
connu
que
assez
a été
tard,
aussi un voyage.
Je l'ai connu dans les années 29, je crois. Même nous vivions faire un voyage en Norvège à ce moment-là, ensemble, et Joyce me disait de très belles choses sur la mer. Joyce avait une interprétation particulière de la mer couleur de vin, justement, de mer. Pour lui, la mer couleur de vin, cela signifiait la mer qui enivre comme le vin.
Adrienne Monnier.
Il y avait quelque chose qui me frappait beaucoup. Cet homme ne mangeait presque rien. Il s'abstenait même de boire du vin rouge parce qu'il trouvait que c'était trop épais, trop près de la viande. Et il lui préférait beaucoup le vin blanc, au sujet duquel il était un connaisseur vraiment parfait.
Vous
il avait
bien
un
la différence.
Ah oui, si, si, si. Pour lui, le vin rouge, je vous dis, c'était rouge, c'était épais, ça ressemblait à la viande, c'était du sang. Tandis que le vin blanc, c'était déjà de l'esprit. Et il avait un goût tout spécial pour certains vins suisses et pour certains vins d'Alsace et vins du Rhin. C'était ses vins préférés. Et alors, pour la nourriture, tout en mangeant à peu près pas, il aimait traiter ses amis somptueusement dans les meilleurs restaurants et se réjouissait beaucoup de voir le cérémonial qui accompagnait toujours le service d'un repas en France. Il disait, regardez le maître d'hôtel, il est en train de célébrer un office. Il pose la bouteille comme ça et puis le bouchon à côté. Et en effet, nous regardions avec lui, c'était tout à fait ravissamment dit. Puis j'ai pu regarder les cuisinières, comme elles ont une façon de s'approprier les mets qu'elles font, qu'elles disent « Mon poulet, mon gigot !» C'était ravissant.
Et c'est à Madame Eugène Jolas que nous avons demandé de compléter ces portraits de James Joyce.
J'ai connu Joyce depuis 1925, quand mon mari Eugène Jolas a commencé à publier sa dernière œuvre dans la revue Transition, qui a été fondée par mon mari. Et évidemment, j'ai eu beaucoup à faire à Joyce au début, pour les épreuves, pour toutes les choses un peu modestes que la femme d'un rédacteur fait autour du bureau d'une revue. Ensuite, nous sommes devenus très amis, et je dois dire que un des liens les plus agréables entre moi et Monsieur et Madame Joyce a été notre amour mutuel de la musique. Nous allions souvent ensemble au concert, à l'opéra surtout, et encore une fois, car toute fête pour Joyce était une occasion qu'il aimait bien faire ressortir de la vie quotidienne. Quand il allait à l'opéra, il ne mettait jamais de porter le chapeau claque, sa canne d'ébène, sa cape. Et la soirée finissait toujours ou au Café de la Paix ou chez Fouquet's, avec des conversations sur les vieux chanteurs, des chanteurs que nous avions connus tous ou entendus. Par exemple, moi, j'avais beaucoup entendu Caruso, plus que lui. Et on comparait les différentes voix. C'était un de ses délassements préférés.
Il préférait l'opéra au concert?
Oui, il préférait beaucoup l'opéra au concert. Et il connaissait l'opéra moderne, c'est-à-dire moderne, je parle du 19e siècle, d'une manière extraordinaire.
Il aimait les voix.
Il aimait surtout la voix du ténor, n'est-ce pas ? Pour lui, la voix de l'homme était bien plus belle que la voix de femme.
Cet air de Guillaume Tell que James Joyce aimait en tête. Quant aux méthodes de travail qu'utilisait James Joyce, cette exposition présente d'abord les épiphanies, séries de feuillets manuscrits, bribes de propos qui paraissent souvent anodins, mais auxquels Joyce attachait une grande importance. Ce sont surtout des impressions. Il en a repris un grand nombre dans plusieurs de ses ouvrages. D'autre part, des matériaux qui lui servaient d'excitant intellectuel en même temps que de glossaire technique. Revues de métier, magazines enfantins, prospectus publicitaires qu'il se fit envoyer de Dublin lorsqu'il composa sa dernière œuvre. Il recrée, dans leur désordre, les images qui forment la toile de fond, la conscience collective des habitants de Dublin. Enfin, 58 petits carnets que James Joyce emplissait de notes. Là, il s'agissait peu d'observations, ce sont plutôt des mots de toutes les langues. Très souvent, ils sont barrés de traits de crayons de couleur, ce qui signifie que Joyce les a utilisés dans un texte. Méthode de travail que Stuart Gilbert, qui révisa la traduction d'Ulysse, compare à celle d'un peintre. De quel peintre? Il va vous le dire lui-même.
Si vous pensez à Finnegan's Wake, je comparerai sa façon de travailler avec l'œuvre du grand peintre Seurat, le travail pointilliste. Ce système de mettre toute une série de petits points sur la toile, ordonné d'une façon complètement prémédité d'avance. Dans l'œuvre de Joyce, je dirais qu'il n'y a presque pas de sous-conscient, c'est-à-dire dans l'affecture de son œuvre. Les pensées qui l'ont amené à créer ses œuvres étaient peut-être sous-conscientes, mais son travail personnel était parfaitement conscient. Je l'ai souvent assisté quand il était en train de composer sa plus grande œuvre, Finnegan's Wake. Il le faisait avec toute une série de petites notes dans des cahiers. Il avait des centaines de cahiers. Et il savait tout de suite où il fallait placer chaque phrase, chaque mot, très souvent des mots étranges qu'il avait inventés ou qu'il avait trouvés dans des langues étrangères. Et il n'a jamais hésité où le placer. C'est la chose qui m'a étonné le plus. C'est-à-dire qu'il tenait dans sa tête le trame de son œuvre dès le début. C'est pourquoi je voudrais le comparer à Seurat, parce que si je ne me trompe pas, l'art pointilliste est basé sur le même système. C'est-à-dire une combinaison d'enthousiasme, d'émotion lyrique, si on veut, et une science exacte et précise.
À cette exposition, qui est, rappelons-le, un hommage à James Joyce, nous avons rencontré Lord Killanin, qui est un écrivain irlandais, mais un écrivain irlandais qui vit en Irlande. C'est par hasard, tout à fait par hasard, qu'il était à Paris.
Nous lui avons demandé de nous dire quelle était la situation faite à James Joyce par les gens de Dublin et par les gens d'ailleurs.
Toute l'année, il y a eu des Américains qui sont venus chercher des reliques de Joyce. J'ai vu sur mon dernier mot le docteur Gogarty, qui est le Buck Mulligan de Joyce. Et tout l'été, il a eu des visites d'étudiants américains qui voulaient lui demander des histoires de Joyce.
Et puis, nous nous sommes étonnés. N'y a-t-il pas à Dublin une rue James Joyce?
À Dublin, comme en France, nous changeons, en Irlande même, on change tout le temps les noms des rues. Mais ils sont toujours des noms des politiciens et pas des écrivains. Je connais plein de rues qui sont nommées après un écrivain irlandais.
Est-ce qu'il y a une statue, par exemple, de James Joyce, ou est-ce qu'on songe, est-ce qu'il y a un comité, comme il y a très souvent pour un écrivain, pour lui élever une statue à Dublin?
Non, il n'y a pas de statue, il y a un tableau dans la galerie municipale. Mais il n'y a pas de statue, et je crois qu'il n'y en aura jamais une statue à Dublin.
Mais est-ce que vous pourriez nous dire la raison pour laquelle les Irlandais se méfient de James Joyce?
Eh bien, je crois, n'est-ce pas, il y a des personnages, des bons catholiques, qui n'aiment pas Joyce et ce qu'il a représenté. Alors, il y aura toujours une division d'avis, et quoi qu'il y a beaucoup d'admirateurs de Joyce, je crois que ça sera bien difficile d'établir une statue à Joyce.
Alors, espérons que bientôt, il y aura quelque part en Europe, à Paris peut-être, une statue de James Joyce, illustrée de cette phrase qu'André Gide a écrite le 27 juillet 1949. Il n'est pas malaisé d'être hardi quand on est jeune. L'audace la plus belle est celle de la fin de la vie. Je l'admire dans Joyce comme je l'admirais dans Mallarmé, dans Beethoven et dans quelques très rares artistes dont l'œuvre s'achève en falaise et qui présentent au futur la plus abrupte face de leur génie sans plus laisser connaître l'insensible pente par où ils ont atteint patiemment cette déconcertante altitude.
Vous venez d'entendre « Hommage à James Joyce ».
C'était une émission de Pierre Dumayet et Michel Robida.
C'était une émission diffusée la première fois le 28 octobre 1949.